When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous, et bien j'essaye de feindre l'enthousiasme. Bonjour à tous et bienvenue dans Super Laser Punch, où on parle de trucs Marvel. Ça va Johan, je trahis peut-être un peu mon sentiment. On va parler de Miss Marvel.
Je suis désolé pour toi. je peux faire l'intro si tu veux. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch. Aujourd'hui, on va parler de Miss Marvel. C'était trop bien. Bonjour Patrick.
Bonjour Johan. Content que tu sois enthousiaste. Oui, donc les deux derniers épisodes de Miss Marvel, épisodes 5 et 6, qu'on vient de voir, et qui conclut un petit peu l'année scolaire du MCU. Les prochains, ouais. Ça sera She-Hulk dans un mois. À la rentrée, ouais. Le 17 août. Donc là, on est sur la fin de l'année 2021-2022. Et rappelons à ceux qui n'avaient pas écouté les épisodes précédents de Super Laser Punch qu'on avait beaucoup aimé les deux premiers épisodes de Miss Marvel. Ouais. Peut-être un petit peu moins les deux suivants. Et maintenant, on est sur les deux derniers. Et qu'en as-tu pensé, toi, de ces deux derniers épisodes ?
Eh bien, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, on a deux épisodes quand même très différents. On a un épisode vraiment à part, l'épisode 5 flashback. Alors, c'était quasiment devenu une tradition dans les séries Marvel. Hein. Il y a toujours l'épisode 5 ou 6, c'était toujours un flashback loin en arrière. Du coup, là, moi, j'ai adoré cet épisode, en fait. Il était pas forcément super divertissant, mais... je trouvais que c'était très chouette en fait de revenir dans cette période-là en Inde avec voilà d'autres persos et j'ai trouvé ça en fait très, très chouette à regarder et puis un dernier épisode très action pour le coup et que j'ai beaucoup aimé en fait malgré tous les défauts que je ne suis pas aveugle hein, je vois un peu tout ce qui peut ne pas aller mais en fait globalement si je devais résumer ça je dirais que c'est une série qui est faite vraiment avec le cœur enfin les gens sont contents de le faire et il y a une espèce de bonne humeur qui passe quand même et moi ça m'a atteint quoi et du coup, moi, j'ai passé un super bon moment sur la fin. Et ça avait rattrapé complètement les déceptions que j'avais sur les deux épisodes du milieu. Bon, il y a toujours des choses qui sont liées au clandestin là, que je trouve non seulement finalement pas terrible, toujours pas terrible, mais en plus, visiblement complètement inutile au scénario global. Je pense qu'on aurait pu faire sans...
Ouais.
Sans trop de soucis. Mais voilà, passé ça, j'ai trop envie de retrouver ce perso-là, voire même les autres persos, sa famille, c'est tout ça. J'aimerais vraiment les retrouver. Je pense que la suite, ce ne sera pas l'occasion de retrouver tout cet environnement-là, mais j'espère qu'il y aura une autre série ou un autre film dédié, quoi.
Ouais. Écoute-moi mon impression, comme tu l'as compris, c'est assez déçu. Je suis le fait que tu dises que t'es beaucoup aimé, tu vois, il faut que je ramasse ma mâchoire qui est tombée par terre quand même, parce que je suis. Alors sur l'épisode 5, c'est vrai qu'il y a. Je sais pas si vous entendez ma fille qui babille pas très loin, mais elle risque de rentrer dans la pièce à un moment, on verra. Mais l'épisode 4, effectivement, on est dans une configuration où Marvel y arrive. C'est-à-dire qu'on est presque dans l'intro d'un autre personnage. J'ai l'impression que le thème récurrent de toutes les séries du MCU, de Disney+, c'est les deux premiers épisodes, c'est super cool, on aime beaucoup, c'est très sympa. Et après, ils n'arrivent pas à continuer. En tout cas, c'était mon impression. Et il y a clairement un ventre mou des épisodes 4, 3 et 4 dans quasiment toutes les séries. Et du coup, oui, quand on voit un petit peu l'origin story de Aisha en Inde dans les années 40, oui, c'est cool. Et c'est un truc qui est différent, qui a un poids émotionnel. Ouais, moi, je trouve ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. On est d'accord. Le truc, c'est que après la petite... Enfin, je sais pas ce qu'ils ont avec les enfants qui se perdent dans les foules, mais c'est jamais bien fait dans les séries Disney+. Là, j'ai trouvé que la petite qui se perd dans la gare, c'était pas... Bon, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on savait ce qui allait se passer, ou j'ai trouvé que ça fonctionnait pas.
Déjà, comment ils le racontaient, on va dire, dans les épisodes d'avant, t'avais l'impression que c'était un truc vraiment, tu sais... là, t'as l'impression qu'ils sont à 3 mètres... Ouais. C'est un peu finalement la réalisation de ce que tu attendais comme séquence finalement est peut-être pas à la hauteur et ça, ouais, et ça je suis peu, assez ouais. d'accord et même la façon dont dont Miss Marvel va réussir à sauver son sa grand-mère bon c'est pas tu vois ça, c'est juste ouais. elle l'a trouvé elle l'a ramené à son père bon elle, ils en font des pouvoirs mais c'était même pas forcément enfin, utile,
la poussière d'étoiles là on sait pas d'où elle sort c'est pas de ses pouvoirs on s'en resserre jamais après enfin on n'a jamais vu un truc comme ça qu'elle enfin bon bref à la limite ça je veux pas pinailler c'est pas la fin du monde j'ai trouvé cette séquence dans l'ensemble on va dire la moitié les deux tiers de l'épisode plutôt sympa bien fait c'était intéressant de voir la relation entre Aisha et son mari et leur fille et tout ça, bon, pourquoi pas. Là où ça m'a plus gêné, c'était après, quand on revient dans le présent et quand on a Kamala et Najma qui se battent et puis ce sacrifice de Najma qui intervient, enfin, qui est complètement contre le personnage. Tout à coup, sans raison, elle se dit « Ah ben non, en fait, je veux protéger mon fils. » Et puis, on comprend pas bien, c'est un grand gloubi-boulga de CGI encore, d'image de synthèse, avec ce voile de la dimension Nour. Donc, on sait pas ce que c'est, on sait pas pourquoi c'est dangereux, on sait pas... Enfin, on comprend rien, quoi. Y a pas, et du coup, les enjeux sont... tu vois, on te dit « Ah oui, ça, c'est dangereux. » Tu fais « Bon, bah... » Ok, si vous le dites, ouais, très bien.
Moi, j'ai vraiment eu l'impression que cette histoire de dimension était super importante à l'écriture au début et que ça a été vraiment toned down petit à petit. Et maintenant, ça ne sert vraiment plus à rien. Quoi. On a quand même eu une présentation PowerPoint de Basil Exposition sur un seul épisode pour un truc qui n'est absolument pas important, en fait. On s'en fiche. Ça aurait pu être ta gueule, c'est magique. Et on aurait pensé pareil, mais au moins, on n'aurait pas perdu du temps sur ça, quoi, en fait.
Sur tu sais, si on faisait des titres d'épisodes avec des noms, je pense que ta gueule, c'est magique, ça serait parfait pour cet épisode.
Ta gueule, c'est le Nour.
Ouais, c'est ça. Mais ouais, donc ça c'était vraiment... Et puis, tu vois, je lis le résumé, là, de Wikipédia, et j'apprends, du coup, que Najma a transféré ses pouvoirs à Kamran.
Oui.
Et c'est donc pour ça qu'elle a...
Par le pouvoir de l'amour, ouais, c'est ça.
Mais je veux dire, dans la série, d'une part, j'avais pas compris que Najma avait des pouvoirs comme ça. Je veux dire, à aucun moment, on voit qu'elle a des pouvoirs. Et visiblement, c'est pas juste qu'elle s'est sacrifiée pour que le monde n'explose pas et que donc Kamran ne meure pas avec le reste du monde, mais qu'en plus, elle lui a transféré ses pouvoirs. Ah bon, ok.
Ouais. Je pense que c'est parce qu'elle a touché le Nour, ou je sais plus. Ou c'est juste. Oui.
Clairement, ça doit être un truc comme ça, mais. Enfin, je sais pas, t'avais compris en regardant l'épisode, toi, que c'est Najma qui avait transféré ses pouvoirs.
Ouais, alors j'avais compris que voilà, son amour avait trigger les pouvoirs de Kamran.
Ouais.
Mais oui, c'est pas incroyable, hein, on est bien d'accord. Hein. Peu importe la justification, c'est soit c'est mal expliqué et donc c'est mal fait, soit c'est inexplicable et c'est quand même mal fait. Donc,
ouais, dans tous les cas. Bon, donc voilà un épisode mi-fig, mi-nour, avec cette première partie qui était cool et puis la deuxième partie où ça redevient un petit peu comme dans l'épisode 4, c'est du gloubi-boulga au Pakistan, ok, très bien. Et puis l'épisode 6... qui, du coup, moi, m'a vraiment pas plu. Toi, t'as trouvé ça sympa avec l'action. Ouais. C'est Bruno et Kamran qui courent, qui s'enfuient. Et puis, les enfants qui nous font une je sais pas...
Maman, j'ai raté l'avion.
Ouais, c'est un peu ça, voilà. C'est entre Scooby-Doo et Maman, j'ai raté l'avion, dans l'école. Donc, toi, t'as trouvé que ça fonctionnait. Moi, je vais te laisser...
En fait... J'ai des problèmes, on va dire, entre guillemets, majeurs avec cet épisode-là. Le premier, c'est donc au tout début, c'est la retrouvailles avec la famille où justement elle annonce à tout le monde du coup qui elle est et ce qu'elle sait faire, quoi.
Ouais.
Et en fait, ils sont déjà tous au courant et tout. Et je trouve que ça marche. Cette scène-là ne fonctionne pas du tout, quoi.
Je suis content de te l'entendre dire parce que
même d'un point de vue acting et tout, c'est ah ouais. Alors du coup, c'est infini tes pouvoirs et tout. Enfin, tu sais, ils essaient de faire un peu les questions que Reddit se pose à chaque fois qu'il y a des nouveaux pouvoirs ou je sais pas quoi. Mais du coup, il y a pas vraiment d'alchimie. Ça se passe pas bien. Je pense que ouais, ils ont très mal géré ce moment-là, et en même temps j'ai l'impression que c'était une des contraintes de temps, quoi. Ils ont dû rusher ce moment-là, alors que justement je trouve qu'ils ont perdu du temps dans l'épisode 3 et 4, quoi. C'est un peu dommage. Donc ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est justement c'est la partie maman j'ai raté l'avion, où c'est un peu bateau. Ce qui marche dans maman j'ai raté l'avion, c'est qu'on a on passe un long moment avec le protagoniste qui prépare ses pièges, donc tu as de l'anticipation sur ce que ça va déclencher après, et puis après ils arrivent et ils rentrent dans ces pièges-là, donc je trouve que ça fonctionne comme ça. Là, ça sort un peu de nulle part, quoi. Le DODC, ils arrivent et tous les pièges sont là quasiment, alors on les voit vite fait préparer, mais tu ne comprends pas trop ce qu'ils font, et là, il y a des pièges un peu extravagants, des systèmes, tu sais, de trucs qui se déclenchent et tout. Ouais, ça m'a même pas fait sourire, quoi. Mais bon, j'ai trouvé ça. Je trouve que ça aurait pu être un truc super intéressant, mais vraiment très très mal exploité. Mais du coup, pour revenir à ce que j'ai bien aimé, c'est là on a une Kamala qui prend possession de ses pouvoirs.
Attends, du coup, peut-être sur cette partie que tu viens, avant qu'on parte trop loin dans les.
Ouais, vas-y.
Parce que je suis curieux de savoir ce que tu as aimé, mais pour moi, c'était pas juste c'est un peu raté. Pour moi, ça tombe complètement à plat. La partie on révèle les pouvoirs, c'est le comment dire, c'est presque beaucoup. Enfin, c'est pour moi, c'est encore plus important que la scène d'action de l'épisode final. C'est tout le reste de la série et le catalyseur qui arrive à ce moment. Normalement, c'est ça que toute la série devrait appeler et amener, le moment où sa famille, enfin tout le début de la série, et à vrai dire toute la série, est centrée sur sa famille, sa relation avec sa mère, surtout sa relation avec le reste de sa famille, et l'identité de Kamala, et le fait qu'elle réussisse à devenir elle-même et à s'accepter avec ses super pouvoirs, et que sa famille surtout l'accepte aussi. Et donc c'est un moment hyper important, c'est ça, c'est le cœur au sens émotionnel de la série, c'est ça. Et du coup, le fait que ça tombe autant à plat, ça m'a encore plus déçu, et je pensais pas que c'était possible, ça m'a encore plus déçu que ce dont on parlait à l'épisode précédent, à notre épisode précédent, c'est-à-dire le moment où Cheikh Abdullah lui dit « Tu sais, good is not something you do, it's something you are, it's something you do. » Et ça, c'est tellement con parce que tout ce qui marchait dans les épisodes précédents, c'était justement sa famille et sa relation avec sa mère. D'ailleurs, là, tu disais « J'espère qu'on va les revoir dans un film. » Moi, j'espère qu'on va revoir la mère au moins, qui est une révélation. Moi, je ne la connaissais pas, cette actrice, mais je la trouve incroyable. Et j'espère qu'on va la revoir dans le film. Mais tu vois, le fait que cette scène ne marche pas, c'est exactement le genre de truc auquel, dans les films, je vais dire les films, mais les films ou les séries réussies du MCU, on s'accroche et qui justifie tout le reste. Et les trucs un petit peu cons du reste, et qui, bon, on se dit, c'est pas grave, parce que justement, les personnages sont ancrés dans une... ils ont un poids émotionnel qui fait que ça fonctionne. Et là, le fait que ça fonctionne pas, ça fait que tout le reste du flanc s'effondre, quoi. Et c'est tellement con, parce que on a vu dans les épisodes précédents que les acteurs et la dynamique entre les acteurs fonctionnent. Donc, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans cette scène. Et à vrai dire, je suis content que tu dises toi aussi que ça ne marche pas, parce que ça me montre que je ne suis pas juste un « oui, j'aime pas les trucs », tu vois, que c'est effectivement... Et d'ailleurs, à ce propos, je voulais le dire en début d'émission, mais j'ai oublié, mais un truc dont je suis assez fier, c'est que notre analyse de Thor, Love and Thunder, et on l'a faite sans avoir vu, c'est rare pour nous, sans avoir eu d'analyse ou d'avis d'autres, parce qu'on l'a vu tellement en avance, en fait, qu'on était vraiment livrés à nous-mêmes pour nos analyses. Et en regardant les YouTubers qu'on apprécie ou même les avis de journalistes, etc., on s'est rendu compte qu'on était pile dans la même compréhension des problèmes du film que tout le monde. Et donc, je suis assez fier de notre compréhension des problèmes de Thor Love and Thunder, quoi.
Et du coup, bah, là, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. C'est juste que moi, c'est passé un peu au second plan, face justement à cette Kamala après qui émerge et qui devient super badass et qui fait son agrandissement là, un big gun qui devient un peu plus grand, etc.
Écoute, je pense qu'il y a deux parties aux scènes d'action. La première partie, c'est la partie Scooby-Doo, qui pour moi est plus que juste « oh, bah, c'est un peu couillon ». Pour moi, c'est vraiment... Si tu veux, j'aime bien l'aspect Scooby-Doo, les enfants réussissent à se battre contre les adultes ou à comprendre les trucs que les adultes ne comprennent pas, etc. Mais il y a des limites, quoi. On est quand même... On n'est pas dans une série... qui est justement « Maman, j'ai raté l'avion », un truc pour les enfants de 5 ans. C'est pas ça le ton de la série, c'est pas ce qu'elle est au départ. Si c'était, tu vois, les dessins animés Spidey et ses super amis, où c'est « Oh, regarde, il y a le rhinocéros qui est en train de dévaliser des banques, vite, il faut... » Tu vois, si c'est ça depuis le début, ok. Mais là, c'est pas ça. Et que les enfants réussissent à se battre contre le DODC, le Department of Damage Control, qui est censé réussir à arrêter les Enhanced Individuals partout aux États-Unis. Je veux dire, si on va le faire à la mode pour dessin animé pour enfants de 3 ans, ok, mais on fait ça depuis le début. Là, on a des soldats d'élite qui sont là pour arrêter des super-héros et c'est presque, tu vois, la scène de Breakfast Club où ils dansent dans les rues, dans les allées du lycée. On a l'impression de voir un clip, quoi. Ils sont sur des chaises avec des extincteurs et ils avancent, genre propulsés par les extincteurs. Et t'as les soldats d'élite qui arrivent, qui font « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Oh, on m'envoie des balles de baseball. Oh non !» Tu dis, enfin, non, ça passe pas, ça peut pas passer, c'est trop, quoi.
Je suis d'accord avec toi, et ça, c'est vraiment le DODC qu'on a vu hein, depuis le début. Hein. Je veux dire, c'était pareil contre les clandestins, là, c'est vraiment ridicule. Je suis en phase avec toi. Quand j'étais devant la série, à ce moment-là, vraiment de mon visionnage, j'étais vraiment un peu dans le même état d'esprit, peut-être moins fort, mais vraiment en mode, allez, c'est encore la course-poursuite avec les IA c'était pas les Stormtroopers, mais les mercenaires, quoi. La gamine qui passe sous l'arbre et oh, je sais pas quoi faire, oh non, elle est passée sous l'arbre. Enfin, il y a ce côté-là, et à ce moment-là du truc, j'étais pas du tout dedans, quoi. J'étais ok, bon, voyons ce qui se passe, quoi. Et effectivement, c'est après toutes ces séquences-là où moi, l'épisode se révèle à moi, et puis après, avec la conclusion qui font que.
C'est les trois dernières minutes qui t'ont plu de l'épisode, en fait. Les dix dernières minutes.
Les combats, c'est quoi? C'est une grosse moitié, quand même, non?
Peut-être, ouais. Écoute, je vais regarder tout de suite. Mais en fait, tu veux dire le combat quand ils sortent de l'école et que c'est Cameron et Kamala versus The World, quoi.
Il y a quand même des interactions que je trouve sympas. Dès qu'en fait, ça, c'est un truc qui m'avait déçu et j'en avais pas forcément parlé, mais. On retrouvait quasiment plus qu'on avait dans les deux premiers épisodes en termes de DA, tu sais, sur les dessins qui se font, qui bougent, etc., machin. On avait quasiment perdu ça, voire on avait totalement perdu ça. Je pense qu'il doit y avoir deux, trois contre-exemples, mais pas plus. Et là, on retrouvait, ouais, je fais le plan, alors voilà ce qu'on va faire à la craie et tout ça. Donc là, j'étais quand même content, tu vois, et même le frère qui débarque, ça m'a fait rire, tu vois, qui débarque out of nowhere alors que la DODC s'est rentrée, etc.
Ça, c'était marrant, ouais, je suis d'accord.
Il y a des petites choses, en fait.
Effectivement, c'est à partir de 26 minutes qu'on a le combat, machin. L'épisode fait, on va dire, au total presque 50. Mais la scène dure, oui, elle dure 8 minutes, quoi. Voilà.
Et l'autre chose qui m'avait douché dès le début, en fait, même dès la fin de l'épisode précédent, c'est le fait que Cameron récupère les mêmes pouvoirs Et vraiment, moi, c'était oh non, ils refont le truc que fait tous les Marvel ou tous les films de super-héros, pas faire de méchants. Ils font le même méchant que le super-héros, tu sais, le.
The Big, le méchant comment il s'appelle là, je sais que tu regardes Cosmonaut Variety Hour et il l'appelle de Big Jeff. Jeff, merde, Jeff Goldblum. Jeff. Ah, merde. Enfin, oui, celui d'Iron Man, The Big Méchant, Iron Man de Iron Man 1, quoi. Et ils vont pas complètement dans ce sens, mais il y a clairement un peu de ça, quoi.
Ouais, et puis en plus, c'est mis au chaud pour plus tard aussi, donc c'est pas perdu. Ils peuvent toujours le faire après, hein, s'ils peuvent aller au bout plus tard, quoi. On n'est pas garanti qu'on ait échappé complètement à ça. Mais ça, c'est vraiment un truc qui m'agace énormément, en fait. Et depuis très longtemps, hein, depuis, je ne sais pas, mais c'est un truc que j'ai constaté vraiment, parce que ce n'est pas que chez Marvel hein, du tout. Mais du coup, voilà, donc je ne trouve pas ça intéressant, en fait, ce Cameron qui a des pouvoirs. Je trouve, voilà. Donc du coup, j'étais un peu comme toi, un peu... alors, je sortais d'un épisode que j'avais adoré, donc ça ne se passait pas non plus mal, et ce n'était pas aussi pire que l'épisode, je ne sais plus c'est quel épisode, où elle est au Pakistan et où il y a... il y a l'entre-secrète, machin truc. Donc, ça va. Moi, ça va. Et puis après, on va passer après. Mais,
oui, mais
après,
du coup, je veux savoir ce que tu as aimé quand même. Parce que...
du coup, voilà, moi, c'est ça. C'est juste l'incarnation de cette Kamala déjà en costume. Avec,
je ne trouve pas ça artificiel quand elle lui file son costume. Regarde, alors, tout à coup, moi, je sors ça de nulle part.
On m'a fait remarquer qu'effectivement, il y a un côté un petit peu qui se veut un petit peu émotionnel parce que c'est sa mère qui lui fait son costume. Ça rappelle le costume d'Hulk du premier épisode. Ouais. Et c'est son père qui lui donnera son nom. Et du coup, il y a ce côté un peu transmission qui je trouve que ça marchouille, tu vois, sans dire que c'est. Voilà. Après, le costume nickel. Tricoté en 2 heures par sa mère, bon ça, ça c'est bon, on passe quoi, on va dire.
D'accord. Oui, c'est pas ça le plus gros problème. Quoi, c'est,
ouais. Voilà. Mais le costume est cool de toute façon, même si ça fait un petit peu propre, ça c'est un peu dans la droite lignée des costumes maintenant du MCU, hein, un peu comics accurate comme on dit quoi. Et voilà, et puis ses pouvoirs en pleine maîtrise. J'aime beaucoup aussi la façon dont elle va protéger Cameron, etc. Donc, moi, j'ai trouvé ce final vraiment très, très bien sur cet aspect-là. Après, il n'y a pas beaucoup de choses à en dire, hein, c'est de l'action.
Ouais.
Voilà. Écoute... Sauf toi, ça t'a pas suffi non plus à... Est-ce que tu l'as aimé au moins, ces séquences ? Tu as trouvé ça chouette
Disons que c'est pas celle qui m'a le plus déplu, on va dire, mais je l'ai trouvé pas earned. Tu sais, ils ont pas gagné le fait qu'on arrive à ça. Enfin, non, c'est pas vrai. C'est surtout, je trouve qu'ils ont pas gagné le fait qu'on arrive à Mbigan, qui est là encore un truc méga emblématique de Kamala Khan. C'est ce qu'elle dit quand elle grandit et machin. Mais ça sort de nulle part. À aucun moment on a eu une quelconque référence à un truc qui serait Et c'est même pas qu'elle dit « I have to become bigger » ou « I have to embiggen » ou c'est même pas... Elle dit sa phrase emblématique tout de suite.
Comme si elle le savait, comme si elle avait lu le comics, quoi, en fait.
Exactement. Donc, tu vois, ça m'a gâché un petit peu le truc aussi. Le fait que... Ce que j'ai bien aimé, ce qui a été sauvé, c'est qu'ils n'ont pas fait de Cameron un méga méchant. Tu vois, c'était pas genre tout à coup ça devient Cameron contre Kamala. Et ça aurait été le paroxysme du méchant du MCU qui a les pouvoirs du gentil. Et heureusement, ils sont pas allés jusque-là. Mais tu vois, tout est le fait qu'elle tape dans le sol et ça crée un trou par lequel il peut s'enfuir.
Trou parfait, tu sais.
Ouais, c'est ça. Mais c'est... Bon, ok. Bon, son petit igloo de lumière, ok. Enfin, bon, bref, je vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus parce que je trouve que ça marche pas. Parce que, enfin, si, les trucs qui m'embêtent, c'est que les scènes d'action dans la MCU, elles fonctionnent quand elles sont super bien chorégraphiées. Et dans les films du MCU, c'est pas du gloobie-boulga parce que c'est bien chorégraphié. Les trucs de... Enfin, merde, les pouvoirs pour un super-héros, c'est quand même un truc essentiel, quoi. Oui, on veut... Enfin, encore plus important, c'est le poids émotionnel de tout ce qui se passe. Mais en deuxième position, très près derrière, il y a la chorégraphie des pouvoirs, la manière dont ils les utilisent, etc. Et dans les films du MCU, généralement, tu as ton petit plaisir de fan de super-héros qui est satisfait par cet aspect-là, que ce soit Iron Man ou en particulier les films Captain America ou les Endgame, etc. Il y a des trucs qui sont des bonnes utilisations des pouvoirs. Dans tous les Avengers, tu as des trucs, des moments où tu te dis « Waouh, ça c'est cool, c'est sympa, c'est mon truc de geek de super-héros. » Et généralement, je trouve, dans les séries, c'est un petit peu moins le cas, mais il y a quand même quelque chose. Dans Miss Marvel, le seul truc qu'elle fait, de quoi on va se souvenir, c'est qu'elle se crée des plateformes pour courir au-dessus des gens au lieu de courir normalement sur le sol, tu vois. C'est le seul, et son point à la limite. Il n'y a pas d'utilisation intéressante de ses pouvoirs et autre que ce gloubi-boulga de CGI qui n'est pas convaincant. Donc, bon, elle se fait son igloo à un moment, donc elle les protège, ok. Ok, d'accord. Tu vois, c'est au mieux dans l'utilisation des pouvoirs, c'est juste neutre. C'est pas particulièrement intéressant, quoi. Donc, ça m'a déplu. Mais si, même si on passe cet aspect, je trouve que toute la conclusion fonctionne pas non plus. C'est-à-dire que le moment, là encore, enfin que tu évoquais, où le père lui donne son nom, tu as toujours été notre petite Miss Marvel. Non, ça fonctionne pas. Le fait qu'ils lui disent, tu vois, Kamal, ça veut dire
c'est
Wonder.
C'est la phrase de trop, en fait. C'est quoi? La phrase de trop. C'est-à-dire exactement. Que l'explication jusque-là se tenait. Ça veut, oui, ça veut dire Marvel. Et après, il aurait pu dire, t'es ma petite Miss Kamala, tu vois. À ouais. La limite.
À la limite, à la limite, mais t'as même pas besoin, quoi.
Un cran trop loin dans le truc, quoi.
Ouais.
Mais,
oh,
mais bon,
c'est...
je vois ce que tu veux dire, et mais voilà.
Et parce que
je suis d'accord. Hein. En fait, il y a un vrai problème. Je pense que, enfin, moi, je mets ça sur le point du, il y a pas le temps. Et tu sais, ils vont vite, hein. Et ça se voit. Hein, cet épisode-là, tout va très très vite. Hein. Ouais. Ils reviennent en deux secondes. Enfin, tu vois, c'est Tout est super rapide. T'as l'impression qu'ils n'avaient pas le temps et qu'il leur manque un ou deux épisodes pour faire ça bien. Mais en même temps, tu vois aussi qu'ils ont gâché des épisodes avant un petit peu pour pas grand chose. Donc voilà, je sais pas trop en fait qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils en avaient conscience que c'était trop un peu trop rapide là et que du coup ça on perd les payoffs potentiels qui aurait pu avoir quoi. Mmh. Je sais pas trop d'un point de vue production comment ça se passe. Sûrement qu'ils sont allés trop vite hein, parce que c'est ce qu'on disait aussi la dernière
peut-être,
fois. C'est qu'ils vont vite.
Ouais.
Hein.
Ils vont vite, mais là c'est vraiment pour le coup à la réalisation quand tu filmes la scène, tu te dis bon on a une heure pour filmer la scène, on peut faire trois prises et c'est tout quoi. Ce qui est peut-être l'un des problèmes des séries télé par rapport au film où tu prends vraiment le temps. Il y a des trucs pour ceux qui savent pas, j'ai travaillé dans la prod, dans le cinéma pendant quelques années. Y a un élément qui explique bien la différence entre le cinéma et la télévision, c'est le nombre de minutes utiles que tu filmes par jour. Généralement, pour le cinéma, tu filmes 2 à 3 minutes utiles. Enfin, ça dépend des productions, évidemment, mais en gros, tu fais à peu près 2 à 3 minutes utiles par jour. Et à la télé, tu filmes 8, 10, parfois 15 minutes utiles par jour, à moins que ça soit, enfin, je sais pas, le miel et les abeilles, à ce moment, tu fais 3 épisodes par jour, mais généralement, c'est ce genre de choses. Et là, tu sens vraiment que tu n'as pas eu le temps de reprendre les scènes, de les faire avec l'émotion dans le jeu des acteurs qui convient. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un problème d'écriture et même de montage, parce que je pense, je me trompe peut-être, mais je pense que ce genre de choses, tu peux les faire au montage, quoi. Le fait de « tu as toujours été notre petite Miss Marvel », effectivement, tu n'étais pas obligé de la mettre, cette phrase. Peut-être que ça devenait boiteux, mais je n'ai pas l'impression. Tu as l'impression qu'ils expliquent tout à des enfants de 8 ans, quoi. Et il aurait pu dire, à la limite, tu es notre Miss Kamala, ou même pas, il n'avait pas besoin de dire « Miss ». Ça vient nulle part, ouais. Miss. Tu vois.
C'est Kamala qui aurait pu avoir l'idée, tu vois, derrière.
C'est ça.
Quoi, en fait.
Et il lui dit, tu es notre petite Miss Wonder. Et même, il aurait. Enfin, même pas, non. Il dit, voilà, Kamal, ça veut dire Wonder. Ça veut dire Marvel comme ta super-héros. Il n'a pas besoin de dire, je ne sais pas qui est.
Et Carol Danvers.
Carol Danvers. Enfin, je pense que tu sais pas qui est Donald Trump, tu sais pas qui est Joe Biden. C'est bon quoi, tu sais qui est Bill Gates.
Sa fille a une collection gigantesque dans sa chambre. Elle a sauvé le monde, machin.
Il aurait pu dire, tu vois, tu es Marvel comme ta super héroïne là. Et là, elle fait oh mon Dieu, je suis. Et tu dis même pas que tu es Miss Marvel et peut-être qu'à la fin, elle va voir Bruno et elle dit oh je suis Miss Marvel, voilà, c'est mon nom comme Carol Danvers, je n'en sais rien, tu vois. Bon, bref, tu vois, on a passé plus de temps sur cette phrase que. Mais c'est exactement ouais. Le genre de misstep où la série trébuche, quoi, et qui fait que ça prend pas.
Déjà, le trope du je trouve mon nom à la fin de la série.
Ça suffit.
Je suis en train de me dire. Voilà, c'était presque attendu. Ouais. Et du coup, effectivement, bon, c'est un peu cheesy, quoi. C'est un peu, c'est un peu sur. Il le surutilise, mais mal. Et du coup, c'est un peu dommage. Ouais. Mais
du coup, elle aurait pu avoir son costume avant. Bref, on va pas le réécrire, mais donc moi, c'est marrant parce que j'ai été très déçu au final par la série et j'ai l'impression que toi, tu l'as aimé, mais on a quand même globalement la même analyse, quoi.
Ouais, c'est ça. Je suis objectif. Enfin, j'arrive à voir tout ce qui peut ne pas aller, et je comprends complètement que certains ça sorte complètement certains. Moi, vraiment, j'ai été complètement touché par. En fait, derrière tous ces problèmes-là, pour moi, il transparaît vraiment quelque chose en fait que j'ai pas réussi à retrouver forcément dans beaucoup d'autres séries, quoi. C'est-à-dire que même si c'est cheap, même si il y a des choses qui vont pas du tout, je suis touché par pas mal de choses. Alors que ce soit la bonne humeur de ces acteurs qui sont contents d'être là, mais aussi voilà, c'est entre guillemets une héroïne qui me ressemble, tu vois, il y a ce côté diversité là qui moi me touche énormément dans les relations familiales, dans le personnage en elle-même, etc. Donc je suis on va dire que mes défenses sont peut-être un peu plus basses du coup, puisque j'ai été attendri en amont, quoi. Mais du coup voilà, moi je suis super content, j'avais besoin de cette série. Elle est pas forcément au niveau auquel je l'espérais d'un point de vue qualitatif. Qualitatif, on va dire ça comme ça. Mais malgré ça, le reste m'a touché. J'ai passé un super bon moment. Moi, je la mets vraiment au niveau de OK, quoi, en termes de ce que j'en ressors à la fin. Alors que OK était un peu moins critiquable sur tous ces aspects-là, quoi, clairement. Ça a marché sur moi. Et en plus, on glisse un peu vers la fin de la série, mais il y a eu confirmation aussi que c'est la première mutante officielle de l'univers du MCU.
Et on a même, alors pour ceux qui n'ont pas attrapé le truc parce qu'ils ne connaissent pas les comics, je pense que vous êtes rares, mais on va le dire quand même. Donc Bruno dit à Kamala qu'en fait, c'était pas que ses pouvoirs étaient toujours en elle ou qu'elles font partie d'elle, mais peut-être en partie, mais parce qu'elle a eu des gènes mutés, elle est une mutante en fait. Et il y a même la petite signature sonore des X-Men à ce moment qui vient confirmer, au-delà de tous les doutes, qu'elle est la première mutante de l'univers du MCU et que du coup, ces gènes mutants ont été activés sans doute par son bracelet qui est... On peut l'imaginer lié à ce qui se passe du côté soit des Eternals, soit de Shang-Chi, soit des deux, et qui du coup lie, et là on part dans le lore de Marvel et des mutants, lie aux Celestials, qui ont à voir avec l'établissement de l'humanité, des déviants et des mutants. Et donc ça va sans doute aller dans cette direction-là, et elle est la première, effectivement, mutante qui amène, qui appelle à un moment, on ne sait pas quand, sans doute beaucoup plus tard, mais l'émergence des mutants et des X-Men. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie-là ? On parle du post-générique.
Déjà, le post-générique. En fait, juste pour revenir sur l'annonce et le jingle, du générique de X-Men 97, c'est le même qui était passé pour Charles Xavier dans Doctor Strange quand il apparaît le côté pour le coup ça fait vraiment jingle ça fait vraiment soundboard il a 10 mutants, paf, on appuie sur le sur le bouton et ça fait la petite musique. Je trouvais ça un peu dommage, je préfère quand c'est quand même un peu plus subtil ou quand c'est la musique de la scène qui apporte le motif musical en toute discrétion et avec élégance. Là, c'était vraiment.
ils auraient pu envoyer.
Magnéto-Serge.
C'est ça, ils auraient pu envoyer Wolverine passer dans le fond en faisant coucou. C'était aussi subtil.
Ouais. Un peu ça. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est important parce que s'il avait juste 10 mutations, il y aurait eu des spéculations et des.
Mais c'est pas grave.
Des interrogations.
Mais
et ça
aurait
ça.
Été non, cool. Mais...
ça aurait été cool. Mais je suis content qu'on ait la confirmation. Ouais. Et comme ça, voilà. Moi, ça me. J'espère que du coup, s'il y a un film X-Men un jour, qu'elle sera. Elle sera pleinement intégrée, on verra. Mais bon. Tu vois, ça n'empêche pas de spéculer. Voilà. Après, pour la suite, effectivement, il y a une espèce de... Alors, elle est dans sa chambre et puis il y a une espèce d'effet spécial assez chouette, là où elle... Au début, je pensais qu'elle maîtrisait plus trop ses pouvoirs et qu'elle se transformait en Carol Danvers, comme c'est un de ses pouvoirs dans les comics, tu sais, de changer d'apparence. Je me suis dit,
oui, t'en parlais dans une discussion.
C'était bien Carol Danvers. Ouais, voilà. En fait, non, c'était bien Carol Danvers. Donc, apparemment, elles ont échangé de place. Donc, sûrement à cause du bracelet Kree. Voilà, très étrange. Je me demande comment ça va être exploité. Tu sais, je pense pas qu'on les revoit avant Miss Marvel. Maintenant, c'est dans un an. C'est
avant The Marvel.
The Marvel. C'est dans un an pile poil, en fait. Et du coup, je me demande comment ça va être récupéré pour dans l'intro du film, quoi. En fait, déjà, je me demande où est-ce qu'elle est passée, Kamala. Là, pourquoi elle est. On se plaignait. Enfin, moi, je me plaignais qu'elle aille trop loin de New Jersey, là, pour le coup. Voilà. Donc, non, mais très chouette. Moi, j'aime bien cette scène post-générique. Ouais. Ça appelle à plus d'aventures. Là, j'ai hâte de voir la suite.
Ouais, pourquoi pas. Cette scène m'a pas vraiment dérangé. C'est marrant de la voir, de voir Miss Marvel. Moi, j'aurais aimé qu'elle revienne sur Terre et qu'elle dise bonjour à Kamala, qui ait un lien plus un peu plus direct, mais. Bon, scénaristiquement, c'est peut-être compliqué à faire. Justement, je me plains que ça soit un petit peu artificiel par beaucoup d'aspects la série. Donc peut-être que là, scénaristiquement, ça colle avec ce qu'ils veulent faire avec le.
Ouais, on aura cette rencontre sur le grand écran, quoi.
C'est ça. Pourquoi pas. Ouais, c'est très bien. Ça, ouais. Donc bon, et puis c'est marrant de voir Miss Marvel qui est là. Enfin, Miss Marvel, Captain Marvel, enfin Carol Danvers qui apparaît et qui fait. Mais enfin, je ne sais plus ce qu'elle dit exactement. C'est un petit peu. Mais what the fuck? Oh non, ça suffit. Genre, t'as l'impression qu'elle se fait téléporter peut-être ailleurs ou qu'elle était en train d'expérimenter un truc avec une technologie Kree et qu'on pensait que ça allait faire autre chose et que et tu vois, elle va sortir de la pièce et peut-être qu'elle va rencontrer les parents de Kamala ou je sais pas.
C'est... Détail extrêmement important. Elle a une autre coiffure, hein. Donc elle change à chaque apparition.
C'est ça.
Voilà.
comme un peu, il y a plein de gens qui changent. Enfin, tous les super-héros changent un peu dans chaque. Soit de costume, soit de machin. Mais... donc, bon, ok, voilà. Miss Marvel, la série, on en a dit ce qu'on avait à en dire. Avant on lui met une note à Miss Marvel, je sais pas pourquoi, depuis. Je me suis battu contre les notes pendant longtemps. Et tout à coup, là, je me rends compte que. C'est un bon moyen d'avoir. Enfin, je suis pas.
Ça donne une température globale.
C'est ça, ouais.
C'est ça. Vas-y, tu donnes combien, toi?
On a donné une note à Thor Love and Thunder. Je crois que je lui mettais 10,5 ou un truc comme ça. On est en France, donc on
20,
fait
alors,
sur 20.
Sur 20,
pardon.
Ouais, sur 20.
Je sais pas si c'est sur 20 ou. Toi, tu donnes combien, vas-y?
Moi, je donne un 16.
Oh, wow, 16! Ah, ouais. Putain, ok, d'accord. Non, moi, je lui donne... Alors, pour les deux premiers épisodes que j'ai tellement aimés, je montrais à 11 ou 12, mais pas plus, quoi. Tu vois, le tout m'a déçu. Je mets un peu plus haut que Thor, auquel j'ai donné 10,5, parce que y a eu les deux premiers épisodes qui étaient très bien, mais je pense pas qu'au final, ils valent tellement plus. Mais je comprends pourquoi, toi, tu l'apprécies plus. Mmh. Quoi. Donc voilà, pour Miss Marvel, juste un mot. On a parlé un petit peu de la phase 4 après avoir parlé de Thor. Vous pouvez écouter l'épisode qu'on a enregistré donc là, il y a quelques jours à peine, l'épisode précédent. Il reste quelques films pour la phase 4. On les mentionnait la dernière fois. C'est... tac, 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 que je dise pas de bêtises. Black Panther, Ant-Man, Guardians of the Galaxy et The Marvels, donc quatre films qui restent, qui devraient sortir en 2023. J'ai entendu beaucoup de gens, à propos de Thor, dire que ce qui manque à cette phase 4, c'est un petit peu de cohérence, un but commun ou quelque chose qui nous, auquel on puisse regarder à l'horizon. Moi, je trouve que ça pourrait être bien, mais surtout, ce qui nous manque, c'est des films qui soient bien, tout court. Mais bon, ça, c'est peut-être... Ça pourrait suffire, tu vois, si les films étaient bien. Et puis, il y a des gens qui disent, enfin, visiblement, d'après certains réals ou producteurs, la phase 4, c'est ce qui est l'après Thanos, comment les gens dealent avec ce qui se passe après Thanos. Moi, je ne trouve pas que ça soit vraiment ça. Il y a certains films où c'est le cas, mais bon. Et d'autres qui disent, ça serait bien qu'on ait le méchant Kang qui soit visible un petit peu partout. Et c'est vrai que au moins sur No Way Home et Multiverse of Madness, on aurait pu avoir, apercevoir au moins subtilement quelque chose qui unisse le tout, parce que là, on n'a ni film Avengers qui va arriver, ni quoi que ce soit, donc c'est vraiment éparpillé. Et je comprends que ce manque de cohérence ou de cohésion soit difficile à... Du coup, rendre l'appréciation de l'ensemble des films difficile. Encore une fois, moi, je pense que si les films étaient bien, ça ne serait pas un problème. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, de ce peut-être but commun de la phase 4 ou de quelque chose qui manque à la phase 4 Tu voudrais, toi, qu'on voit Kang un petit peu partout ou...
Non, non. En fait, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est très bien, justement, après un cycle aussi long et un climax aussi énorme qu'a pu être Endgame, de revenir à des choses complètement séparées. Je trouve que sur le papier, ça ne pose aucun problème. Après, effectivement, dans les scènes post-génériques et dans les teasings qui arrivent, on ne voit pas trop comment ça converge. Hein, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire que là, on a Hercule chez Thor, la Dark Dimension chez Doctor Strange, etc. Et chacun, en fait, reste dans son univers. Les teasings voilà, poussent pas vers un truc... on ne sait toujours pas, en fait, quel va être le nouveau Thanos. Mais en soi, ça ne me dérange pas. Quoi. Thanos, il n'a pas été teasé. Et la phase 1, tu vois, donc enfin.
Bah la phase 1, ça allait à Avengers, en fait. Et ça, c'était le truc auquel on. Mais même, moi, j'ai pas besoin qu'on ait, effectivement, comme toi, j'ai pas besoin qu'on ait un nouveau Thanos à chaque phase. Non, et Kang, j'ai pas besoin qu'il soit là. Ils pourraient être chacun sur leur ligne, et ça me dérangerait pas si les films me plaisaient. Ce que je dirais, c'est que maintenant, je commence vraiment à espérer, un petit peu en écho de ce que je disais la dernière fois. J'espère que cette phase 4, c'est Kevin Feige qui a dit à ses petits minions, tu sais, à ses petits larbins, bon, vous occupez de la phase 4, on va surfer sur le succès des phases 1 à 3. Donc, même si vous faites de la merde, c'est pas grave. Moi, je me concentre sur la suite pour que ça soit bien fait et qu'on puisse repartir tu vois, sur des bases saines. Alors, avant, j'espérais que la phase 4 soit bien. Maintenant, j'espère que la phase 5 sera bien parce que Feige se focus là-dessus. Et j'espère vraiment.
Tu parles de ça. Tu parlais de notes tout à l'heure. Du coup, j'étais en train de regarder un peu les notes de Miss Marvel un peu partout. Et c'est vrai qu'avec Spider-Man No Way Home, enfin, je veux dire, les scores critiques user sont quand même super élevés sur cette phase. Il y a quand même des films assez genre No Way Home c'était le film, alors tu vois là je suis en train de regarder No Way Home, c'était le film du MCU le mieux noté et il a été détrôné par, je te l'envoie en direct sur Discord, par Miss Marvel qui est à 98% sur Rotten Tomatoes. Wow. Qui devient l'œuvre du MCU la mieux notée, voilà.
Et même l'audience est à 80% sur Rotten Tomatoes, ouais. Donc on aurait pu se dire les critiques c'est une chose et je suis très surpris, oui. 98%. Bon, écoute.
C'est que Rotten Tomatoes.
Bien sûr.
Mais bon, c'est quand même. Moi, ça me fait plaisir de voir ces chiffres pour Miss Marvel, mais effectivement, je suis assez d'accord cette phase paraît longue, en fait. Il y a plein de gens autour de moi qui disent j'en peux plus, c'est super long. Et pourtant, quand tu regardes le nombre de films, si tu mets à l'écart les séries, il n'y a pas beaucoup plus de films que ça, qu'une autre phase, en fait, pour le moment.
Disons que les phases 1 et 2, c'était 5-6 films, quelque chose comme ça ?
6 films.
Phase 1, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phase 2, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. La phase 3, c'était 11 films. Voilà. Donc là, on est un petit peu dans la durée de la phase 3. Mais oui, la phase 3, c'était ça culminait, tu vois, tous les 10 ans de... Et puis, il y avait des films qui n'étaient pas super dans la phase 3 hein, aussi. C'était pas que des succès. Mais bon, il y avait quand même beaucoup de choses très bien dans la phase 3. Mais là, le problème, c'est pas une question de phase ou de but ou de cohérence. C'est que les films sont... Enfin, pour nous, hein, encore une fois, il y a des gens qui ont adoré Spider-Man.
Quand je regarde la phase, il y a quand même des choses que j'aime bien. Eternal, je trouve ça vraiment
oui,
pas
Eternal,
mal.
Oui, Eternal, hein. J'ai bien aimé. Shang-Chi, j'ai bien aimé. Black Widow, bof. Spider-Man, bof. Ouais. Doctor Strange, bof. Thor, très bof. Et puis surtout, ouais. Le truc, c'est que par rapport au film, il y a aussi les séries. WandaVision, super bien. Falcon and Winter Soldier, il y avait des choses bien. Et on se disait, ah bon, et puis c'est, les trucs pas bien, c'est parce qu'ils ont dû réécrire à cause de la pandémie. Okay. Loki, il y avait des choses très bien. What If, il y avait des choses très bien. Hawkeye, il y avait des choses très bien. C'est vraiment maintenant, là, c'est quelques derniers films où on sent la fatigue parce que ça, les films sont moins bien et puis ça va nulle part. Mais il y a eu surtout Spider-Man que j'ai pas aimé, Doctor Strange que j'ai bien aimé mais pas sans plus, Thor que j'ai pas aimé, Moon Knight que j'ai vraiment pas aimé, Miss Marvel que j'ai vraiment pas aimé et puis la fatigue du multivers. Tu vois, ça fait beaucoup. Là, c'est l'année 2022, elle n'a pas été très tendre pour moi, pour le MCU, quoi. Donc, bon. Et puis surtout, on sent Black Widow, ça allait nulle part. Shang-Chi, c'était sympa, mais il y avait des trucs moyens. Eternal, j'ai bien aimé, mais c'était pas. Tu vois, il n'y a pas de porte-étendard. Dans toutes les phases précédentes, il y avait des porte-étendards où tu disais, ouais, ça, c'est super cool. Là. Tu as des espoirs pour She-Hulk qui arrive dans un mois, le 17
De moins en moins. plus je vois des screenshots apparaître sur mon fil Twitter, puis je me fais « Ah, Donc on verra, voilà.
Et puis en plus, ça va être comique, quoi. Je pense que She-Hulk, il part vraiment sur un truc comédie avec peu d'enjeux.
J'espère qu'il y aura peu d'enjeux, mais j'ai l'impression que là, à chaque fois qu'on dit ça... il y a une autre dimension et tu vois, il y a des aliens et tout qui débarquent, quoi. Donc, j'espère que cette fois-ci, il y aura vraiment peu d'enjeux.
Ouais.
Voilà. On verra.
Il y a quand même en série des choses qui arrivent qui sont à préparer. Enfin, She-Hulk, c'est une cousine de Bruce Banner qui, bref, il y a une transfusion de sang, machin. Elle devient une sorte de Hulk, mais elle est aussi avocate. Et elle est un petit peu l'avocate des super-héros, donc il y aurait des trucs intéressants à faire. Mais il y a aussi la série qui vient après, et c'est peut-être ça, vers ça que mènent les différents films et séries. Bon, il y a un Halloween special qui arrive en fin d'année, et puis un Holiday special de Guardians of the Galaxy. Mais l'année prochaine, il y a quand même Secret Invasion, qui est un truc absolument monumental dans l'histoire des comics. Et c'est une série où les Skrulls ont pris la place de plein de super-héros. Je comprends pas comment on va y arriver. Enfin oui, il y a eu quelques indices dans
Captain. À part le fait que la série arrive, il y a rien qui te met la puce à l'oreille. Enfin, j'en sais rien.
Bon, il y a quand même. Il y a des trucs où tu te dis c'est bizarre quoi. Genre le fait que dans Captain America The Winter Soldier, tu sais merde comment elle s'appelle. Machine, elle a infiltré Machine Carter, elle a infiltré le gouvernement américain. C'est un peu, c'est surprenant. Ouais, oui. Il y a quelques trucs comme ça que j'ai un petit peu oublié, mais bon, ils vont peut-être encore le préparer avec d'autres films qui arrivent. Mais bon, donc il y a ça. Il y a Ironheart qui pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'espoir, comme Kamala Khan, mais du coup maintenant j'ai risque d'être déçu. Il y a Armored Wars, il y a une série Wakanda, et puis après... On aura sans doute, dans les jours à venir, je ne sais plus quand c'est la Comic-Con, mais dans les jours à venir, beaucoup plus d'informations sur l'avenir.
Dans une semaine, très exactement.
Dans une semaine, très bien. Donc, on en parlera peut-être quand on parlera de She-Hulk fin août, et on parlera un petit peu de tout ça. J'espère que ça nous donnera un petit peu de rêve, et qu'on sera un peu plus enthousiaste. Enfin, moi,
en tout cas.
Merci, Johan, d'avoir passé ce moment avec moi. Avant de se quitter, un mot pour remercier TomTomGo27 qui a laissé un commentaire et une note sur iTunes. Il a dit un after sauce Marvel. Déjà grand aficionados des podcasts de Patrick, Rendez-vous Jeux, Rendez-vous Tech, que je vous conseille d'ailleurs. Ce podcast est tout simplement réussi pas toujours OK avec les analyses. Tu trouves qu'on est trop enthousiaste, peut-être. Mais globalement, les échanges sont assez objectifs. Si vous avez envie de faire un after après avoir vu un film Marvel, Star Wars, voire DC, c'est ici qu'il faut se rendre. Je ne loupe aucun épisode, etc., etc. Merci pour la qualité. Merci à toi. Et si vous appréciez l'émission, ben, vous pouvez aller laisser une note ou un commentaire ou en parler à vos amis. Si vous n'arrivez pas, par exemple, à expliquer pourquoi, à exprimer pourquoi une série vous plaît ou un film ne vous plaît pas, vous pouvez dire « Ah, bah, dans Super Laser Punch, ils expliquent exactement ce que j'en pense, donc va l'écouter, on pourra en discuter. » Ça vous donne une base. Donc, recommandez ce podcast à vos amis pendant l'été, c'est le moment. Et merci à tous ceux qui laissent des notes et des commentaires sur les plateformes de podcast. Et merci surtout à Johan de partager ces moments avec moi. Quel plaisir de se retrouver pour geeker, être heureux ou se plaindre de tout ce qui se passe dans ces séries. Du coup, là, pendant plusieurs semaines, on va pas être ensemble. On se retrouve pour les deux premiers épisodes de She-Hulk.
Ouais, ou alors autre chose, si quelque chose vient. Mais
Si quelque chose vient, peut-être. Écoute, je ne sais pas si on aura le temps, mais peut-être commenter les annonces qu'on va avoir à la Comic-Con
début.
On se retrouverait début août, peut-être.
Bien sûr. Je ne sais pas, il y aura une mini-série à un moment donné. Tu sais, Baby Groot, là, je ne sais pas quand ça sort, mais c'est un truc minuscule. Hein, c'est des petits épisodes, et je pense que c'est pour les plus jeunes. Mais si on a des choses à dire dessus...
Je suis pas convaincu, mais peut-être.
On pourra commenter les avis de nos enfants. Hein.
Ouais. I Am Groot, ça arrive le 10 août. Donc, peut-être. Bon, c'est des épisodes courts. Moi, je ne suis pas convaincu, mais peut-être que je serai
séduit. Moi non plus. Hein.
C'est possible. Bon, d'ici là, où est-ce qu'on te suit sur Internet, dis-moi.
Eh bien, on me suit principalement sur Twitter, à @yohan_t_. Je sais pas, il y a pas trop d'actu en ce moment là. Moi, je suis je joue à des jeux. Des fois, j'en parle. Mais sinon, là, je suis en vacances. On peut me retrouver dans une demi-heure à la piscine.
Voilà. Parfait. Écoute, vous le suivez sur Twitter pour savoir où il est et sur le Discord, évidemment, le Discord de l'émission que vous avez en lien sur notepatrick.com. pour discuter de toutes ces séries, de tous ces films et bien plus encore. Moi, c'est NotePatrick sur tous les réseaux sociaux et donc les liens sur notepatrick.com. On vous fait de gros bisous et on se retrouve dans quelques semaines pour encore plus de geekery, Marvel et plus. Ciao, ciao.
Bisous, bisous.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.